Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation. Une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer
et Sophie Bonnuel-Chénaud. Odile, le podcast, est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Odile, le podcast. Nous parlerons cyberharcèlement aujourd'hui et particulièrement cyberharcèlement envers les journalistes et les vérificateurs. On parlera de ses conséquences et des manières d'en sortir ou tout du moins de le combattre. Avec moi pour animer ce podcast, Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et notre invitée aujourd'hui sera Florence Hénault, journaliste indépendante belge. Elle a travaillé pendant une dizaine d'années pour la RTBF, le premier diffuseur public belge. Elle a démissionné en 2016 pour devenir indépendante et elle a été victime d'une campagne de harcèlement en ligne durant des années. Elle n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Florence nous racontera comment elle a traversé cette épreuve et comment elle compte s'en sortir. En tout cas, elle écrit un livre sur la question. Elle a également été co-réalisatrice du documentaire hashtag salpute sur le cyberharcèlement dont elle a été victime.
Internet, c'est la vraie vie. C'est pas une vie parallèle. Le vrai changement, ce sera un changement social, sociétal. Le jour où être grossier, violent sur Internet, le jour où ces types n'auront plus de public, que le public leur dira « Mais qu'est-ce que tu fous, Roger ?» au lieu de liker et de partager, ben là, ça s'arrêtera.
Avant d'écouter Florence Hénault plus en détail, on va passer à l'actu.
On commence avec cette expérience à la fois inquiétante et originale. C'est celle d'un journaliste américain. Il lui aura fallu seulement 2 jours. 2 jours, $105 et aucune expertise pour lancer un site d'information locale entièrement automatisé et généré par l'intelligence artificielle. C'est l'expérience que raconte le journaliste Jack Brewster dans un article pour le Wall Street Journal paru le 12 avril dernier. Il y fait le récit de la création de ce site internet bidon, mais capable de publier des dizaines d'articles politiques créés de toutes pièces, bien évidemment. Un fait particulièrement inquiétant en cette année électorale où presque la moitié des habitants du globe votent. Avec cette expérience, Jack Brewster démontre à quel point il est facile et peu onéreux de distribuer des fausses nouvelles sur Internet. Le tout avec l'apparence de vrais articles et d'un véritable site Internet d'actualité.
Quand la désinformation peut modifier notre mémoire des événements. Une étude frappante américaine d'un chercheur de l'université de Cornell nous montre que la désinformation en ligne affecterait également nos souvenirs des événements réels. Les chercheurs ont présenté des publications vraies et fausses à propos d'événements réels passés et ont ensuite interrogé les participants à l'étude pour sonder leur mémoire de l'événement en question. Le résultat troublant de ce travail de recherche, c'est le degré d'acceptation comme vrai des fausses informations auxquelles les sujets ont été exposés. Un article à lire dans les notes d'épisode.
On parle de cette formation désormais proposée par le Centre international des journalistes, l'ICFJ, qui organise des formations en ligne qui auront lieu à la fin du mois de mai. Le thème, le journalisme de données et le journalisme d'investigation, elles seront ouvertes aux journalistes francophones du Tchad, de Guinée, du Mali, du Niger et du Sénégal. Alors si vous avez envie de participer, vous pouvez postuler jusqu'au 11 mai sur le site de l'organisation américaine icfj.org. Justement, à propos de cette série de formations, vous trouverez plus d'informations dans notre précédente newsletter. Et d'ailleurs, nous publions chaque semaine de nouvelles opportunités repérées lors de notre veille hebdomadaire. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre liste de diffusion. Ça se passe sur le site d'Odile, odile.org.
Et enfin, on termine par une distinction et nos félicitations au passage, celle reçue par l'AFP pour sa série de vidéos Fact Check. Elle fait partie des lauréats des Digital Media Awards Europe, un prix organisé par l'Association mondiale des éditeurs de presse. Et c'est pour sa playlist vidéo intitulée « Vrai ou faux, comment vérifier une info » que l'AFP a été distinguée dans la catégorie « Meilleur projet de fact-checking ». Cette compilation de 70 vidéos courtes a été créée par l'équipe du service investigation numérique de l'agence de presse, conseils pratiques, éducation médias. Ces vidéos en français, anglais et espagnol entendent répondre à la désinformation là où elle se trouve, c'est-à-dire en ligne. La playlist est disponible sur les chaînes YouTube et les comptes des réseaux sociaux de l'AFP. Bonjour Florence Hénault.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre le temps de nous rejoindre, d'autant qu'on sait que c'est pas toujours facile de revenir sur des faits de cyberharcèlement. Chaque nouvelle intervention de votre part ou interview vous expose à de nouvelles attaques. Donc un grand merci pour ça. Et j'aimerais qu'on commence peut-être par revenir sur votre histoire et la manière dont vous avez vécu le cyberharcèlement, ses origines, d'autant qu'en tant que femme journaliste, vous n'êtes pas la seule de ce genre d'attaque.
Oui, d'après une étude de l'UNESCO, 73% des femmes journalistes ont subi de la cyberviolence parce qu'elles sont femmes et journalistes, donc dans le cadre de leur métier. Donc c'est déjà un facteur de risque. Parler féminisme, évidemment, est un facteur de risque à plus ou moins 100%. Donc femmes journalistes féministes, ça faisait beaucoup, mais les premières expériences de ce que j'appelle aujourd'hui de la cyberviolence, j'avais pas les mots à l'époque que j'ai connus, mais ça a commencé très tôt, en 2010, quand je présentais les infos sur la matinale d'une radio de la RTB. Fait un auditeur particulièrement obsédé par moi me faisait tellement peur que pendant quelques semaines, quelques mois, je sortais de chez moi. Je sortais de chez moi à 2h30 du matin. Je sortais avec un couteau parce que j'étais persuadée que j'allais un jour le retrouver devant ma porte. Et quand j'en ai parlé à des collègues, au service juridique, etc., on était en 2010, personne n'a pris ça au sérieux. On m'a dit oui, mais c'est son Facebook privé, il ne faut pas répondre aux auditeurs. Et donc, la première réponse de la société, finalement, que j'ai eue quand j'ai parlé d'un stalker qui me faisait peur au point que j'en avais peur physiquement, ça a été que c'était un petit peu ma faute et que c'était pas si important que ça. Et j'ai bien appris la leçon et je me suis tue pendant des années jusqu'à ce que je n'en puisse plus de me taire et que je décide d'en faire un sujet de travail.
Qui, pour le coup, a déclenché une tornade que vous n'attendiez pas forcément.
J'ai co-réalisé en 2021 un documentaire qui s'appelle Hashtag sale pute sur les cyberviolences misogynes avec Myriam Leroy. Et c'est pas ça qui a déclenché le plus de violence. Je pense que l'épisode le plus violent que j'ai vécu, c'est quand j'ai écrit une carte blanche. Il y avait une décision de justice qui autorisait une haute école à interdire les signes religieux. Et j'ai écrit une carte blanche parce que je trouvais que interdire à des femmes adultes qui portent le foulard d'utiliser un service public, c'est ce qu'est l'enseignement supérieur, ça me semblait être un grave précédent. Et c'est complètement parti en sucette. C'est complètement parti en sucette. Je me suis même ramassée votre fachosphère française, hein, merci les déchets toxiques. Donc c'est une histoire dont je paye encore les conséquences aujourd'hui. Alors qu'il me semblait que c'était... Je réinventais pas la roue en disant ça, mais prendre la parole dans l'espace public en tant que femme sur ce genre de sujet, ben on m'a rappelé qu'en fait, c'était pas ma place et on me l'a rappelé de manière très violente.
Justement, quelles ont été les manières de vous le rappeler ? Quelles ont été les formes de ce cyberharcèlement ?
Il y a tout eu. Donc il y a parce que c'est vrai quand on parle cyberviolence, finalement c'est assez large. On pense aux insultes et aux menaces parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, de plus graphique. Donc évidemment j'ai eu des insultes, des menaces. Il y a ma page Wikipédia qui a été saccagée ou sur ma page Wikipédia il est régulièrement écrit que je me suis réjouie de l'arrivée des talibans au pouvoir. Mes comptes ont été hackés, il y a eu des photomontages avec mon visage, il y a eu des menaces, les gens ont dit que j'étais... Beaucoup de diffamation, hein. Principalement les gens ont dit que voilà, j'étais naïvement tombée dans les bras des islamistes. J'étais, ah, ça c'est nouveau, je n'avais pas vu venir celle-là. Donc voilà, ça a été... beaucoup de choses, principalement du saccage de réputation et des menaces. Il y a eu des menaces très, très, très explicites par rapport à ce qu'on allait me faire. Et c'est vrai que c'est la première fois de ma vie où j'ai eu peur parce que je me suis dit qu'il y en avait toujours un qui était plus bête qu'un autre et qui se disait peut-être sincèrement que j'étais la porte d'entrée de l'islamisme en Belgique et qui... Enfin, voudrait peut-être régler le problème. Donc ça m'a fait un petit peu peur. Mais sinon, les cyberviolences, c'est tellement plus large que ça. Par exemple, la diffusion de contenu intime... 90% des victimes sont des filles et des femmes. Ça peut être dans le cadre d'une relation de couple, le fait d'obliger la personne à donner ses codes, de l'obliger à se géolocaliser pour vérifier qu'elle est bien là où elle dit qu'elle est. Ça peut être les deepfakes. C'est terrible, ça, c'est vraiment terrible. Donc, c'est la création de photos ou de vidéos à caractère pornographique sur base du visage d'une personne. Donc, il y a vraiment toute une palette, parce que finalement, c'est ça qui est important de comprendre avec les cyberviolences, c'est que ce sont des violences commises avec un moyen cyber, mais ce sont avant tout des violences. Cyber, ça reste le moyen de commettre ces violences, rien de plus.
Alors vous partagez tout à l'heure l'expérience avec un auditeur trop insistant, même obsédé par votre personne au point qu'il vous fasse peur. On était en 2010 avec quasiment pas de réaction institutionnelle, où en gros on vous dit bah, c'est comme ça, faut faire avec. Aujourd'hui, 14 ans après, est-ce que vous voyez une évolution dans la manière dont la société traite ces cas de cyberharcèlement en tant que victime, mais aussi en tant que militante ?
Oui, on commence doucement à prendre la mesure. Enfin, je dis doucement, c'est vraiment con la calma, hein, du moins en Belgique. En France, il y a toute une série de lois qui viennent de passer qui sont très encourageantes. En Belgique, c'est encore un peu le Moyen-Âge à ce niveau-là. Ce qui a énormément changé, c'est que bah, la RTBF en 2010 qui me disait « c'est ton compte privé, on peut rien faire », et la RTBF en 2024 qui a une politique de tolérance zéro par rapport aux cyberviolences contre ses employés, contre ses journalistes. Aujourd'hui, il y a un procès qui aura lieu en 2025. C'est la RTBF et Florence Henneau qui attaquent quelqu'un pour harcèlement. Ça, c'était inimaginable il y a 14 ans. Donc, c'est ça qui a changé aussi. C'est que, en tout cas, certains médias, en Belgique, la RTBF est le seul. En France, beaucoup de médias ont pris la mesure du problème et donc protègent leurs journalistes et ont compris que si on ne protégeait pas les journalistes, on les entourait pas, on leur permettait pas d'avoir bah, aussi des cellules d'aide psychologique et puis un soutien juridique, bah, en fait, ces journalistes allaient disparaître. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que c'est tellement violent d'être femme et journaliste que pour survivre, il faut se faire toute petite, ne pas aborder des sujets qui pourraient cliver ou déclencher de la violence, principalement les questions de genre, et ne pas toujours signer ces articles. Donc, entourer les femmes journalistes, c'est aussi s'assurer qu'elles soient encore vivantes dans 10 ans.
Alors Odile, le podcast, on s'adresse à une audience dans toute la francophonie. On a beaucoup de nos auditeurs qui sont en Afrique francophone, par exemple, où les mœurs sont différentes, l'évolution de la société aussi est différente de ce qu'on peut connaître en Europe continentale. C'est pour ça que j'aimerais vous poser la question de mesures de protection qu'une femme journaliste ou fact-checkeuse pourrait prendre pour elle-même. Parce que ce que vous nous dites, c'est qu'il y a de l'autocensure subie par les femmes journalistes qui s'interdisent de traiter certains sujets de peur de représailles parce que ça touche à des intérêts très alors soit contre la fachosphère, soit contre les masculinistes, ce genre de choses là. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Même des questions vraiment basiques, hein, il suffit de parler de droits LGBT, de contraception, de charge mentale, de violence contre les femmes, il suffit de ça. Alors ce qu'on peut faire, ce qui est terrible, hein, c'est que finalement dans l'urgence, ben, il faut qu'on soit mieux armé d'un point de vue technologique, c'est-à-dire que, qu'on apprenne à se protéger. Et alors, c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois. Hein. Enfin, mais rien qu'éviter le jour où ça part en sucette, éviter que des choses trop personnelles fuitent. C'est-à-dire, j'ai écrit un bouquin récemment sur le même sujet. Après, il faudrait que j'arrête de bosser là-dessus. Mais vraiment, ça m'intéresse. Donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Cyberharceler, 10 étapes pour comprendre et lutter ». Et une de ces étapes analyse de tout ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue technologique. Donc, par exemple, j'ai appris des choses. Je ne savais pas, peut-être que tout le monde le sait, mais moi, je ne le savais pas, que quand on postait une photo sur les réseaux sociaux, ben, sur certaines de ces photos, on pouvait récupérer des métadonnées. C'est-à-dire qu'on pouvait géolocaliser. Savoir tout ça, se protéger, avoir des mots de passe robustes, faire attention à ce qu'on poste, paramétrer ses paramètres de confidentialité pour éviter qu'on puisse être taggable, etc. Donc ça, c'est déjà des choses à mettre en place avant. Il faut être parano. On dit toujours pas de parano. Si, il faut être parano. Il faut se protéger un maximum. C'est-à-dire que si un jour quelque chose de terrible vous arrive, si vous êtes visé par une vague de haine, eh bien, si vous êtes protégé auparavant et vous avez bétonné les failles, ben, il y aura moins de choses qui pourraient être divulguées. Donc, par exemple, la journaliste Nadia Dam, qui a subi une vague de cyberviolence absolument hallucinante en 2017, ben, ils ont retrouvé l'adresse de son domicile, l'école de sa fille, etc., sur base vraiment de trucs stupides qu'on poste sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait pas gaffe, évidemment, on ne vit pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et hélas, je pense que il faudrait qu'on soit tous, mais surtout toutes, éduquées à se protéger d'un point de vue technologique.
Oui, d'ailleurs, on peut rappeler qu'Odile a produit une formation sur la cybersécurité des journalistes, où on peut apprendre notamment les moyens de se protéger contre ce type de risque-là, et qu'elle est disponible sur odile.org. Sophie, je vois que vous avez une question.
Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est les conséquences que ça a eues sur votre vie personnelle.
Alors, il y a... quand on parle de santé mentale, moi, je me cache derrière des chiffres parce qu'il y a des choses dont je veux bien parler, d'autres dont je n'ai pas envie de parler, bêtement, parce que je sais que tout ce que je fais, tout ce que je dis, les émissions dans lesquelles j'interviens, voilà, sont scrutées, découpées, instrumentalisées, etc., et que je n'ai pas du tout envie de donner à la bande de type qui veut me nuire des biscuits pour lui montrer que ça fonctionne parfois. Donc les chiffres dont on dispose en termes de conséquences mentales, on sait que 88% des victimes de cyberviolence souffrent ou ont souffert de troubles anxieux et dépressifs. 49% des femmes victimes estiment que leur sécurité personnelle est menacée et 14% des victimes ont tenté de se suicider. Donc ça, c'est ça, les effets de la cyberviolence. Hein. On a parfois tendance à pas comprendre parce que ne fût-ce que parce que le préfixe cyber fait penser que c'est pas tout à fait réel, mais c'est ça, les effets de la cyberviolence. Après, moi, ça a eu des conséquences sur mon métier. C'est-à-dire que j'ai dû quitter, il y a déjà plusieurs années, Twitter et Facebook parce que ce qui m'était infligé sur ces plateformes au quotidien était devenu invivable. Mais quand on est journaliste freelance, c'est compliqué, évidemment, de quitter ce genre de plateforme. C'est-à-dire qu'on perd une exposition, on perd un réseau, on perd du jour au lendemain. Plus personne n'a pensé à moi. J'avais du mal à contacter les gens parce que je les contactais beaucoup via Twitter. J'avais accès à tout le monde via Twitter. Ça a eu des conséquences aussi parce que pour le moment, les cyberviolences dont je suis victime, c'est principalement du saccage de réputation. Et à force, en fait, cette petite musique aigrelette depuis des années où je serais naïvement tombée dans les bras de l'islam radical et puis j'aurais menti sur le harcèlement que j'ai subi, etc. Mais tout ça a des effets, c'est-à-dire que parfois les gens ne suivent pas très bien, mais ils disent que quand même il y a un souci avec moi. Je sens un peu le souffre.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a cette musique lancinante qui finit par s'accrocher dans l'inconscient collectif, en tout cas ceux de potentiels collaborateurs, et que ça vous oblige, même si vous avez envie d'oublier cette histoire, à venir corriger, rétablir la vérité, même aujourd'hui, à un moment où vous n'avez peut-être pas envie de passer à autre chose.
Mais ce qui est, c'est que j'aimerais bien rétablir la vérité, mais personne, évidemment, ne me dit en face, tu sais, quoi, on a pensé à toi pour une collaboration, puis on s'est dit que finalement, tu étais peut-être problématique, on ne l'a pas fait. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai saisi la justice. J'ai, en 2024, 2025, sans doute 2025, trois procès qui vont arriver. Ces procès, ils sont importants pour moi à plusieurs égards. Pour des raisons politiques, en fait, parce qu'à un moment, on ne fera pas avancer il n'y aura pas de jurisprudence, on ne fera pas avancer les choses s'il n'y a pas de cas qui vont devant les tribunaux. En Belgique, c'est très difficile d'arriver devant un tribunal avec un cas de cyberviolence, de cyberharcèlement. C'est important pour moi aussi parce que j'attaque des mensonges qui sont proférés à mon encontre. Et donc, si, et je dis bien si, parce que pour le moment, l'état de la justice en Belgique ne donne pas vraiment confiance, si je gagne ces procès, et je dois les gagner d'un point de vue, mais bon, si je gagne ces procès, ce sera aussi une... aussi une vérité judiciaire qui, moi, me fera du bien parce que en cas de... si un jour quelqu'un m'appelle en disant « on a pensé à toi, mais on hésite », mais au moins, je peux produire ce truc en disant « mais voyez bien, enfin, je veux dire, la justice a tranché, ce sont des mensonges et pour le moment, ça reste un peu parole contre parole et ça me semble d'une... C'est d'une grande violence. Oui, mais ils disent que... Oui, mais c'est faux. Donc voilà, puisque la parole n'a pas de poids, je vais demander à la justice un porte-voix.
Alors justement, si on se projette un peu dans l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez voir du point de vue de la réponse sociétale ? Parce qu'on a commencé à voir des évolutions dans les entreprises qui protègent les leurs. On voit tout doucement dans certains pays européens, ailleurs dans le monde, dans le monde anglo-saxon peut-être un peu plus qu'ailleurs, qu'il y a des réponses judiciaires qui commencent à se mettre en place. Est-ce que vous souhaitez, ou peut-être l'avez-vous déjà fait, travailler avec des législateurs pour réfléchir à des cadres, pour éviter que ce genre de choses n'arrivent.
C'est ce qui est en train de se faire, mais c'est le Digital Service Act qui a été voté en août dernier, qui était censé être implémenté en février, mais Anne Masseran, moi j'ai toujours rien vu venir, hein. Donc ils ne sont pas très pressés. Donc, il y a des petites évolutions. Travailler, alors c'est ça que, alors je sais qu'on n'est jamais prophète en son pays, mais par exemple j'ai été invitée à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé sur toute la feuille d'apaisement du numérique, le programme du gouvernement français, je m'exprime devant le Parlement européen, parfois devant les gens de l'ONU, etc. En Belgique, ça n'a pas l'air de les intéresser des masses. Après, moi, je suis, ça prend du temps, ça coûte cher de militer, tout ça, moi je suis pas payée pour faire ça, donc. Mais je trouve ça un peu dommage parce que ça fait 7 ans que je travaille sur le sujet et je pense que j'aurai des choses à amener. Ce qui devrait changer pour moi, il y a tellement de choses. Je pense qu'il est temps en 2024 qu'il soit communément admis que Internet est l'espace public le plus important dont on dispose aujourd'hui. et que c'est pas le Far West sur lequel on peut faire n'importe quoi. Déjà, si les lois dont on dispose pour la vie physique pouvaient être appliquées à la vie numérique, ce serait déjà un grand début. Non, il n'y a pas des règles spécifiques à Internet. On ne peut pas soudainement, parce que il y a un ordinateur entre moi et la personne, je ne peux pas soudainement commencer à l'insulter en disant « oui, mais ce sont les règles d'Internet ». Ben non, en fait, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un des grands arguments des cyberharceleurs, c'est de « oui, mais ce sont les codes Internet ». Non, Internet ou pas, on n'insulte pas les gens. Donc qu'on fasse déjà appliquer les lois, avant même de penser en avoir des nouvelles, mais déjà qu'on fasse appliquer les lois actuelles et qu'on réfléchisse à des lois plus adaptées. Par exemple, en Belgique, il faut se battre avec des lois qui ont été créées avant l'invention du téléphone pour essayer de les faire appliquer à Internet. Mmh. Tant dire que c'est un peu plus difficile que de mettre des formes Fisher-Price dans des trous adaptés. Hein. C'est pas simple. Donc déjà qu'on reconnaisse que Internet, c'est la vraie vie, c'est pas une vie parallèle. Je pense qu'il faut évidemment faire évoluer la législation, etc. Mais le vrai changement, ce sera un changement social, sociétal. Le jour où être grossier, violent sur Internet, via Internet, parce que ne sera plus vu comme quelque chose de... On sera plus vu comme le caïd de la cour de récré auprès de qui il faut bien se faire voir pour ne pas se faire violenter. Le jour où ces types n'auront plus de public, que le public leur dira « mais qu'est-ce que tu fous, Roger ?» au lieu de liker et de partager, ben là, ça s'arrêtera. Pour le harcèlement public, il y a évidemment tout le harcèlement, les cyberviolences qui se passent en privé, de personne à personne, mais en tout cas, pour celui qui se passe en public, il peut continuer parce qu'il y a un public. Et aujourd'hui, je trouve que le public a plutôt tendance, et c'est dû aussi à la manière dont les algorithmes sont manipulés pour pousser en avant les contenus clivants, mais le public suit au lieu de jouer le rôle qu'on peut même jouer au bar du village. Quand Roger est bourré, on lui dit « Roger, t'as trop bu, rentre chez toi, tu fais chier ». Et bien là, sur Internet, pour le moment, ça ne se passe pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sans beaucoup de contrôle social.
En attendant, et on l'espère que les choses puissent évoluer dans le bon sens, quel conseil vous donneriez, là, comme ça, aujourd'hui, tout de suite, à une femme journaliste francophone victime de cyberviolence ?
D'en parler, parce que beaucoup de victimes n'en parlent pas. Alors, quand on parle de femmes journalistes, en plus, il y a quelque chose de spécifique, c'est que qui n'est pas seulement pour le métier de journaliste, hein, c'est aussi pour les femmes politiques, c'est que c'est un milieu dur, c'est comme ça, c'est trash, on s'en prend plein la gueule, il faut prendre sur soi. Et donc, parfois, les femmes journalistes ne parlent pas des cyberviolences qu'elles subissent parce qu'elles n'ont pas envie. C'est déjà un milieu très masculin dans lequel les femmes ne sont pas toujours les bienvenues. Et elles n'ont pas envie d'être vues comme des victimes, des chouineuses, des faibles. Et donc, elles prennent sur elles. Et en fait, il faut en parler. C'est d'une grande violence. Ça a des effets sur absolument tout.
À qui on en parle ?
Ben, c'est ça. Alors, déjà, si on pouvait en parler entre consorts, ce serait pas mal. Parfois, même entre consorts, c'est compliqué. Il y a beaucoup, en France, beaucoup de médias ont mis en place des cellules, des personnes de confiance. En Belgique, c'est encore l'exception. Il y a la RTBF et sinon rien. Mais en France, c'est en train de se généraliser. Le fait que l'UNESCO et International Center for Journalists aient sorti une étude sur les cyberviolences contre les femmes journalistes, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Ça veut dire que c'est aussi une étude qui dit à toutes celles qui morflent mais qui serrent les dents, vous savez quoi ? En fait, c'est grave. Ce que vous vivez, c'est pas votre faute. Ce que vous vivez, c'est systémique. Ce que vous vivez, c'est parce que vous êtes journaliste. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, les médias qui n'ont rien mis en place, mais moi, je rêve qu'un jour, une femme journaliste attaque le média pour lequel elle travaille pour non-respect de la législation sur le bien-être au travail. Parce que un travail dans lequel on est soumis à autant de violence, l'employeur ne peut pas s'en laver les mains en disant ne réagis pas, Martine, serre les dents, tout va bien se passer. Si c'était pas une journaliste, mais par exemple une employée de la Poste, et que toute la sainte journée, devant son guichet, des hommes se relayaient pour la traiter de tous les noms, la sexualiser, se foutre de sa tronche, ben, l'employeur ne pourrait pas dire « Eh oui, Martine, c'est le risque du métier ». Et donc, cette espèce d'image de « journaliste, c'est difficile, c'est le risque du métier », ça suffit. En 2024, on peut plus. On peut plus dire ça.
Et malheureusement, en même temps, je pense que c'est la réalité, avec notamment le problème encore persistant pour trouver un travail fixe. Ça doit encourager quand même, malheureusement, le silence.
Mais justement, c'est ça, c'est que là, pour le moment, cette phrase, elle est hyper bateau, et pourtant, j'ai pas trouvé mieux. Et pour le moment, la honte, elle est toujours du côté des victimes. Aussi parce que même si on avance, on n'a pas la société et la mise en récit médiatique de ce genre de cas me semble pas toujours adéquate. Aujourd'hui, la réponse globale de la société est quand même de questionner le comportement des victimes plutôt que le comportement des agresseurs. C'est-à-dire qu'on va dire à une jeune fille dont la photo dénudée circule, on va lui demander pourquoi elle a envoyé une photo d'elle à poil. On va me demander à moi pourquoi j'ai écrit cette carte blanche et si c'était bien nécessaire. De s'exprimer dans le débat public? Pardon, hein. Enfin, oui.
Mais l'argument « est-ce que ça valait vraiment le coup ?» revient trop souvent.
Tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est questionner le comportement de la victime. Et ça, c'est tellement typique de la culture du viol. Pourquoi tu marchais tard le soir? Qu'est-ce que tu portais? C'est exactement la même chose. Demander à une victime pourquoi elle a envoyé une photo d'elle, si c'était bien nécessaire de faire cette blague, si elle pourrait pas changer de ton, parce qu'elle a peut-être un ton un peu véhément et c'est normal que les gens lui envoient, c'est prendre le problème à l'envers, en fait. Rien de ce qu'on dit, rien de ce qu'on fait, même si ça déplaît, même si ça choque, ne justifie un déferlement de violence misogyne, souvent raciste. Enfin, rien ne justifie ça. Et pour le moment, on a un peu accepté les cyberviolences comme une fatalité, genre, il pleut, ça mouille, t'as qu'à mettre un parapluie. Et c'est là qu'il me semble qu'on a encore beaucoup de travail à faire. C'est que c'est une réalité, ça nous tombe dessus, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'accepter. Il faut travailler avec pour le moment parce qu'on peut pas faire autrement. On peut pas décider que les gens vont arrêter d'être méchants, arrêter d'être violents, arrêter de vouloir qu'on se taise. Accepter ça comme une fatalité, ça me semble une tristesse sans nom. On peut pas. Enfin, c'est quoi le projet de société là-dedans?
Alors, dans les campagnes coordonnées en ligne qui vont viser des journalistes, et pas uniquement des femmes d'ailleurs, il y a aussi celles qui visent les voix dissidentes dans des pays où les gouvernements ne sont pas forcément très enclins à entendre des arguments de l'opposition s'exprimer dans le débat public. On voit aussi les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Est-ce que les mesures de protection, à votre avis, doivent être les mêmes? Choisir des bons mots de passe, faire attention à ce qu'on publie, etc. Ou est-ce qu'il y a une différence entre ce type de victimes-là et puis les victimes femmes qui ont tendance à être plutôt victimes de sexisme et puis de ce que vous avez décrit jusqu'à maintenant?
Je pense que quand on a peur pour sa vie, que ce soit, que ce soit parce qu'on est une femme menacée de viol parce qu'on a dit bonjour sur Internet ou parce qu'on porte une voix dissidente, il y a des outils communs qui peuvent être utilisés. Maintenant, le pouvoir d'un gouvernement n'est pas le pouvoir d'une bande de harceleurs. C'est-à-dire que les harceleurs sont parfois très doués en informatique, mais ils ne peuvent pas remonter votre adresse IP, vous mettre sur écoute, saisir vos comptes, etc. Donc là, c'est quand même un autre niveau. Et c'est intéressant. C'est juste que ça me fait penser à un truc. On entend souvent que le gros souci sur Internet, c'est l'anonymat. Que s'il y avait plus d'anonymat sur Internet, plus personne n'oserait insulter en son nom propre. C'est faux. C'est faux. Moi, la plupart des gens qui m'insultent, ils le font sous leur vrai nom parce que c'est pas une honte de le faire. Socialement, c'est pas puni d'être un harceleur. Et puis, déjà, l'anonymat au sens strict du terme, il n'existe pas. Hein. Les plateformes détiennent toutes les informations nécessaires pour remonter à votre identité si elles ont envie de le faire. Le pseudonymat existe. Et le pseudonymat, il est extrêmement important parce qu'il permet justement à des voix dissidentes de pouvoir s'exprimer en protégeant leur famille, en se protégeant. Ça permet à des féministes de s'exprimer, à des lanceuses et des lanceurs d'alerte, à des voix dissidentes. Donc ça permet pas que à des harceleurs de se faire appeler Totoro 69 pour m'insulter. Ça permet aussi de faire émerger des voix et des discours qui n'ont pas leur place dans les médias traditionnels. Et ça, c'est extrêmement important.
Quel réseau social, si c'est un réseau social, vos cyberharceleurs utilisent?
X principalement. X surtout. Et depuis le rachat de X par Elon Musk, évidemment, c'était déjà un peu l'enfer avant. Mais quelques mois après le rachat par Elon Musk, les chiffres étaient assez parlants. C'était plus de 100% d'insultes racistes. Enfin, c'est X. De plus en plus de médias, de plus en plus d'institutions quittent le réseau social. Ça me semble nécessaire et je trouve que les médias qui s'y trouvent encore aujourd'hui font une grave erreur. Enfin, il faut maintenant quitter Et il faut quitter cette fosse sceptique.
Si Bérard Soledis était pour comprendre et lutter, c'est votre dernier ouvrage, Florence Hainaut, paru fin 2023 aux éditions de Books Supérieurs. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous.
On retiendra que dans ce livre-là également, vous vous projetez vers le futur et vous donnez de l'espérance aussi pour sortir de ce fléau-là. Et on espère aussi que les conseils que vous avez prodigués et dans le livre et dans le podcast seront entendus et appliqués par nos éditeurs qui parfois peuvent être hésitants à publier quelque chose de peur de représailles. Merci beaucoup.
Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites.
Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.